Europe 1.
Le journal de 6 heures présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Où en est l'épidémie de Covid? Un indicateur ne trompe pas. Emmanuel Macron a remis le masque hier lors d'un déplacement dans la Vienne. Reprendre les bonnes habitudes, voilà le message du président. 71 000 nouveaux cas quotidiens en hausse sur une semaine.
Bientôt 3 ans depuis le début de l'épidémie, un pays s'apprête maintenant à tourner la page.
Oui, la Chine, là où tout a commencé en janvier 2020. Après un allègement des restrictions sanitaires, Pékin s'apprête donc à rebaptiser le virus. Un changement de nom symbolique que nous explique Sébastien Le Belzic pour Europe 1.
Il n'a pas encore de nom, mais ne l'appelez plus Covid-19. Le responsable de la branche des maladies infectieuses, de la très officielle Association chinoise de médecine, a déclaré que le coronavirus avait muté et qu'il était donc temps de changer son nom officiel. Xinguanfeiyan, le nom chinois du coronavirus qu'il identifie comme une maladie causant une pneumonie grave, devrait être changé pour l'appeler plus simplement virus infectieux. Il n'a pas encore été officiellement rebaptisé, mais cette annonce reflète en tout cas la volonté des autorités chinoises de tourner la page de l'épidémie et d'accompagner la fin des mesures les plus controversées de sa politique zéro Covid. Une façon aussi de faire passer la pilule auprès d'une frange de la population qui ne comprend pas pourquoi les autorités ont changé aussi brutalement leur fusil d'épaule cette semaine avec la fin des centres de quarantaine et des tests obligatoires. Il faut passer de la détection à la prévention, annonce l'agence sanitaire qui recommande simplement aux malades de se soigner à la maison. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Des préservatifs gratuits pour les jeunes dès le mois prochain, annonce d'Emmanuel Macron hier. Dès le 1er janvier, les 18-25 ans pourront obtenir ces protections en pharmacie sans ordonnance. Un moyen de lutte supplémentaire contre le sida et les infections sexuellement transmissibles en hausse chez les jeunes Français.
6h02 sur Europe 1. Que signifie pour vous le mot laïcité? Ce vendredi, journée nationale dédiée à ce principe de notre République. À l'école, notamment, les atteintes à la laïcité ont diminué le mois dernier, d'après le ministère de l'Éducation nationale.
Oui, et pourtant dans les classes, les difficultés n'ont pas disparu pour autant. D'après un sondage IFOP publié hier, près de la moitié des professeurs de collège et de lycée se seraient déjà auto-censurés pour éviter un incident sur le thème de la laïcité. C'est plus 20 points en 4 ans. Louis Salé, les chefs d'établissement sont en première ligne.
Oui, c'est un combat de longue haleine, insiste Dominique Faure. Elle est proviseure en banlieue de Nantes et représentante du syndicat SNPDEN. Fin octobre, elle a convoqué une élève qui portait une abaya, une tunique longue à caractère religieux.
Ça a généré, à la sortie du lycée, une rumeur sur le fait qu'on l'avait exclue. Ça a créé un mouvement de lycéens qui a envahi le hall, qui voulait organiser un blocus du lycée.
La situation s'est résolue grâce au dialogue, mais elle en attend plus du ministère.
Beaucoup d'enseignants ne se sentent pas capables de travailler ces questions avec les élèves. Et ça ne suffit pas de demander de faire une minute de silence sur un attentat ou des choses comme ça. Il faut vraiment que le ministère forme les personnels et notamment les enseignants.
Un proviseur de région parisienne qui souhaite rester anonyme rencontre toujours des difficultés sur les abayas malgré les clarifications récentes de l'Éducation nationale.
Dans les 15 derniers jours, on a encore eu un certain nombre de jeunes filles qui persistent. Si on dispose d'un texte très clair sur le port du voile, il n'est pas aussi explicite sur le port de l'abaya.
Tout salue néanmoins les efforts des rectorats ces derniers temps pour les accompagner.
Louis, ça l'est. 6h04, Retailleau, Ciotti, Ciotti, Retailleau. Qui sera le futur président des Républicains? Verdict dimanche après le second tour du scrutin.
C'est donc la dernière ligne droite pour faire campagne. Éric Ciotti, a priori favori, sera ce soir en réunion publique à Paris. Et parmi les invités, un certain Laurent Wauquiez.
Oui, lui-même, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lorgne, lui, sur une autre élection, la présidentielle de 2027. Alexandre Chauveau, il s'y prépare déjà minutieusement.
Oui, d'ici 2027, chaque jour compte, confie en privé Laurent Wauquiez. Le président de région a passé son tour en 2022, mais se dit cette fois déterminé à se lancer dans la course, convaincu qu'après 10 ans de macronisme, le prochain président ne viendra pas de la majorité actuelle. Son principal adversaire, c'est donc selon lui Marine Le Pen, dont il doute pour autant de la victoire dans 5 ans. Ce sera elle ou moi, résume ainsi en une formule l'ancien ministre. Mais Laurent Wauquiez n'entend pas pour autant mettre fin à sa diète médiatique, refusant de commenter la multiplication des polémiques. L'ancien président des Républicains planche avant tout sur son programme présidentiel et enchaîne pour cela les immersions sur le terrain. 24 heures dans un hôpital à Valence, dans une usine Michelin à Rouen, au sein d'un lycée ou avec une équipe de la BAC en banlieue de Lyon. Laurent Wauquiez mûrit enfin une réflexion sur le fonctionnement des institutions qu'il considère à bout de souffle. Parmi ces pistes, le recours régulier au référendum sur toute une série de sujets pour limiter le pouvoir des autorités de contrôle qu'il juge en partie responsable du sentiment de dépossession des Français.
Allez. Alexandre Chauveau, on quitte l'arène politique pour un autre match.
Ah.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle.
Premier jour des quarts de finale, oui. On y est. Brésil, Croatie à 16h et puis Pays-Bas, Argentine à 20h à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Une affiche qui rappellera sûrement de bons souvenirs aux fans de foot dont vous faites peut-être partie, Alexandre.
Non, c'est un peu loin pour moi.
1978, c'est un peu loin.
Jeune, on va dire.
Jeune, très bien. Les deux pays s'affrontaient à ce moment-là en finale de la Coupe du Monde. L'Argentine remporte son premier trophée chez elle à Buenos Aires. Un match sous tension, on s'en souvient, Cyril de la Morinerie.
Oui, 2 heures avant le coup d'envoi du match, le stade monumental de Buenos Aires est déjà plein à craquer. Une finale dans une ambiance très particulière, se souvient le journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux.
C'était un match affreux où quand les joueurs néerlandais attaquaient, vous avez 70 000 personnes qui sifflent et tout ça sous l'œil ricanant du général Videla.
L'arbitre que le général Videla avait salué avant le match semble sous influence. Les joueurs argentins agressifs, ils s'imposent 3-1 en prolongation, notamment grâce à un doublé de la star Mario Kempes. Dépité, les Hollandais refusent d'aller chercher leur médaille. L'Argentinelle est en liesse. Manuelo, 8 ans à l'époque, avait regardé le match sur une télé en noir et blanc.
C'était une ambiance incroyable et je pense que ça va recommencer ce soir parce que le stade va être rempli d'Argentins. On a tous l'espoir de gagner à nouveau et de remporter une troisième Coupe.
Et après les sacres des équipes de Kempes et de Maradona, l'Argentine espère la consécration pour les protéger de Lionel Messi.
Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. Il nous fera vivre demain, Cyril, bien sûr, le quart de finale France-Angleterre. Rendez-vous dès 19h15 sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde de foot. 6h07. Cette voix, je sens que ça vous parle, Alexandre. Hein ?
Oui, pourquoi ?
Maria Carré, pardon. C'est ce qu'il dit dans la rédaction, en tout cas. Hein, Alexandre Lemaire, fan de Maria Carré.
Décidément.
Bon, qui vous souhaite, en tout cas, un joyeux Noël. Est-ce que vous avez fait votre sapin, déjà ?
Oh là là, mais vous me mettez la pression. Vous n'êtes pas la première à me poser la question. Gentille pression, hein, mais ce week-end.
Il ne faut plus tarder. Voilà. Bon, vous allez peut-être aller l'acheter en magasin. Eh bien, certaines familles ont décidé carrément d'aller chez le producteur, c'est-à-dire en forêt. On part en Champagne-Ardenne, où le centre des espaces naturels propose aux habitants de venir couper eux-mêmes leur arbre pour l'installer à la maison. Nina Droff nous emmène donc choisir le sapin, tout un art.
Là, regardez, il est plus beau celui-là. Voilà, celui-ci, oui.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Maman, moi je veux un plus grand. Je veux lui.
Tu veux lui ?
D'accord.
C'est pas le plus beau, mais pour lui c'est le plus beau, donc c'est le principal.
Donc les gens viennent chercher leur pain de Noël et mettent la main à la pâte en aidant à préserver les landes. Et en même temps, c'est un moment de convivialité.
Le fait de venir couper son pain pour les enfants, après on met le sapin chez nous et c'est son sapin, il a été le couper. Et après il va le décorer, il fait tout du début jusqu'à la fin, je trouve ça génial.
Ça va tomber par là.
Ah, c'est tout. Ça y est.
Allez, vas-y.
Yes.
Bravo. On y est arrivé, ouais. Bravo. Maintenant on attend papa pour le porter.
Ouais.
Et voilà le choix du sapin de Noël par Nina Droff.
Bon, vous êtes armé de votre scie, hein, j'espère. Hein.
Oui, c'est bon, c'est bon, okay. Je vais y aller juste après la matinale en forêt.
J'aimerais bien vous y voir.
Avec ma veste de bûcheronne, bien sûr.
6h09, merci Ronan, ok. On se retrouve.